Bonjour, ici Marc, bienvenue au 79e épisode du bonheurpourtous.info, le podcast où je partage avec vous les meilleures informations que je trouve pour reprendre contact avec notre vraie nature, le bonheur. Aujourd'hui, la suite de la troisième partie du livre de Lark and Rose, La superstition la plus dangereuse, commencée à l'épisode 50. Tout le monde n'est pas prêt à entendre ceci, mais je pense que si on veut arriver enfin à la fin des guerres, de l'esclavage qui, comme le montre ce livre, est plus étendu que jamais, la fin de la pauvreté, de la pollution, et enfin arriver à la paix dans le monde, et à la prospérité et au bonheur pour tous, il est absolument nécessaire de se libérer de cette terrible superstition. Oui, la plupart d'entre nous sommes esclaves, et on ne s'en aperçoit même pas. C'est pour ça qu'on gagne à peine de quoi vivre, qu'on a si peu de temps libre, que les prix augmentent autant, etc. Et ceux qui prétendent diriger me semblent tout autant bourrés de traumatismes émotionnels et ne sont pas heureux non plus, donc l'organisation actuelle de la société n'est vraiment bonne pour personne. 65 000 anglophones sont abonnés à la chaîne YouTube de Lark and Rose, ce qui montre que ça intéresse beaucoup de monde. Avec cette traduction pour francophones, ce nombre va pouvoir augmenter. J'espère que, comme pour moi, ça vous donne espoir qu'on peut aller vers une société plus juste où la vie est plus belle. Voici donc la suite du livre. Les effets du mythe sur les défenseurs des droits de l'homme. L'agression légalisée. Alors que la plupart des gens s'imaginent probablement être des spectateurs lorsqu'il s'agit d'oppression et d'injustice autoritaire, en vérité, presque tout le monde est en fait un défenseur de la violence gouvernementale sous une forme ou une autre. Quiconque vote, quel que soit le candidat, ou même soutient verbalement une politique ou un programme du gouvernement, approuve le déclenchement de la violence contre ses voisins, même s'il ne le reconnaît pas comme tel. En effet, la loi n'est pas une question de suggestions amicales ou de demandes polies. Chaque soi-disant loi promulguée par les politiciens est un ordre, soutenu par la menace de violence contre ceux qui n'obéissent pas. Comme l'a dit George Washington, le gouvernement n'est pas la raison, ce n'est pas l'éloquence, c'est la force. La plupart des gens dans leur vie quotidienne sont très réticents à recourir aux menaces ou à la force physique contre leurs semblables. Seule une infime partie des nombreux désaccords personnels qui surviennent conduisent à des conflits violents. Cependant, en raison de leur croyance dans le gouvernement, presque tout le monde préconise la violence généralisée sans même s'en rendre compte. Et ils ne se sentent pas coupables de le faire, car ils considèrent que les menaces et la coercition sont intrinsèquement légitimes lorsqu'elles sont appelées forces de l'ordre. Tout le monde sait ce qui se passe lorsque quelqu'un est pris en train d'enfreindre la loi. Il peut s'agir seulement d'une amende, une exigence de paiement sous la menace de violence, ou d'une arrestation, la capture de quelqu'un par la force, ou même de l'assassinat par les forces de l'ordre de quelqu'un qui continue à résister. Mais toute loi est une menace, soutenue par la capacité et la volonté d'utiliser la force meurtrière contre ceux qui désobéissent, et toute personne qui réfléchit honnêtement à cette idée reconnaîtra ce fait. Et la croyance en l'autorité conduit à une étrange contradiction dans la façon dont les gens voient le monde. Presque tout le monde préconise que la loi soit utilisée pour contraindre les autres à faire certaines choses ou à financer certaines choses. Cependant, tout en prônant une telle violence et en connaissant parfaitement les conséquences pour ceux qui sont surpris à désobéir, ces mêmes défenseurs ne reconnaissent pas que ce qu'ils prônent est de la violence. Ils sont des millions, par exemple, à se considérer comme des personnes pacifiques et civilisées, certains portent même fièrement l'étiquette de pacifistes, tout en préconisant le vol à main armée contre toutes les personnes qu'ils connaissent, ainsi que contre des millions d'inconnus. Ils n'y voient aucune contradiction, car le vol est désigné par l'euphémisme « taxation » et est effectué par des personnes dont on imagine qu'elles ont le droit de commettre des vols au nom du gouvernement. Le niveau de déni que crée la croyance en l'autorité est profond. Lorsqu'ils prônent la violence politique, les gens n'acceptent aucune responsabilité pour les résultats. Ceux qui demandent des prestations gouvernementales, par exemple, demandent à recevoir un butin volé de force à leurs voisins par le biais de l'impôt. De même, postuler à un emploi gouvernemental revient à demander que ses voisins soient contraints de payer son salaire. Que la personne reçoive un paiement direct ou un service, un programme ou un autre avantage, elle acceptera généralement le bien volé sans le moindre soupçon de honte ou de culpabilité. Elle peut par ailleurs se montrer parfaitement respectueuse des personnes qu'elle a demandé à l'État de voler. Dans aucune autre situation ne se produit une déconnexion mentale aussi étrange, non seulement pour celui qui préconise l'acte d'agression, mais aussi pour la victime de cet acte. Si par exemple une personne avait payé un voleur armé pour pénétrer dans la maison de son voisin et lui voler des objets de valeur, et que le voisin savait qu'il l'avait fait, ses voisins ne seraient probablement pas en bons termes, c'est le moins qu'on puisse dire. Pourtant, lorsque la même chose est faite en utilisant l'autorité, par le biais d'élections suivies d'un vol législatif, ni le voleur ni la victime n'y voient généralement quelque chose de mal. Note personnelle de l'auteur. J'ai perdu le compte du nombre de personnes qui ont exprimé leur sympathie pour moi et ma femme parce que nous avons été emprisonnés pour ne pas avoir cédé au fisc. Mais il ne semble jamais venir à l'esprit de nos connaissances non anarchistes que nous avons été mis en cage par ceux-là même pour lesquels ils ont voté, pour avoir désobéi à des ordres qu'ils préconisaient. Pour autant que je sache, aucun des étatistes que nous connaissons n'a même remarqué la schizophrénie et l'hypocrisie qu'il y a à soutenir activement l'extorsion de masse, taxation, et à présenter ensuite des condoléances sincères aux victimes de cette même extorsion. On peut voir l'essence surnaturelle de l'autorité dans le fait que, parmi les personnes qui votent avec empressement pour que leurs voisins soient légalement extorqués et volés, peu demanderaient ou paieraient de simples mortels pour qu'ils fassent la même chose. Peu de gens se sentiraient justifiés d'engager un gang de rue pour voler leurs voisins afin de payer les études de leurs propres enfants. Mais des millions de personnes prônent la même chose lorsqu'elles approuvent les « taxes foncières » destinées à financer les écoles publiques. Pourquoi ces deux situations leur semblent-elles si différentes sur le plan moral? Parce que ceux qui croient au gouvernement pensent qu'il est constitué de quelque chose de plus que les personnes qui le composent. Il est imaginé qu'il a des droits qu'aucun simple mortel ne possède. Du point de vue de l'étatiste, demander au gouvernement de faire quelque chose a beaucoup plus en commun avec prier les dieux de faire quelque chose qu'avec demander aux gens de faire quelque chose. Un étatiste qui exige une certaine législation serait horrifié et offensé si un groupe d'individus ordinaires proposait de fournir des services similaires. Imaginez qu'un gang de rue fasse l'offre suivante à un résident local. Nous ferons une quête auprès de vos voisins et nous utiliserons ce que nous aurons obtenu pour payer les choses que vous voulez, c'est-à-dire envoyer vos enfants à l'école, réparer les routes, ce genre de choses. Nous devrons bien sûr en garder une partie. Dites-nous comment vous aimeriez que vos voisins se comportent et nous veillerons à ce qu'ils le fassent. S'ils ne font pas ce que nous disons, nous prenons leurs affaires ou nous les mettons en cage. Mais lorsque les mêmes choses sont proposées dans un discours de campagne par quelqu'un qui brigue un poste au sein du gouvernement, et lorsque ces choses sont faites au nom de vagues abstractions politiques telles que le bien commun ou la volonté du peuple, elles sont considérées non seulement comme permises, mais aussi comme noble et vertueuse. Lorsque l'homme politique déclare « Nous devons fournir un financement adéquat pour l'éducation de nos enfants et nous devons investir dans nos infrastructures », il parle de prendre de force l'argent du peuple, par le biais des impôts, et de le dépenser de la manière dont il pense qu'il devrait être dépensé. Une telle agression est acceptée comme justifiée lorsqu'elle est faite au nom de l'autorité, mais reconnue comme immorale si elle est faite par de simples mortels. Cela montre que, dans l'esprit de l'étatiste, le gouvernement est quelque chose de plus qu'un ensemble d'êtres humains. Paradoxalement, l'étatiste insistera sur le fait que tout ce que le gouvernement est autorisé à faire, et tout ce qu'il est, vient du peuple. Toute croyance dans le gouvernement exige la croyance absurde et sectaire que, par le biais de documents et de rituels politiques pseudo-religieux, constitution, élection, nomination, législation, etc., un groupe de simples mortels peut faire naître une entité qui possède des droits surhumains, des droits que ne possède aucune des personnes qui l'ont créée. Et une fois que les gens ont halluciné l'existence d'une telle chose, ils imploreront cette chose avec empressement pour qu'elle commande et extorque leurs voisins par la force. Les gens reconnaissent que les simples mortels n'ont pas le droit de faire de telles choses, mais ils croient sincèrement que la divinité appelée gouvernement a tous les droits de faire de telles choses. Voilà, c'était l'épisode d'aujourd'hui. Si vous aussi, vous voulez que ce dont on parle ici arrive aux oreilles de plus de monde, parlez-en autour de vous, faites des heureux. Et laissez un commentaire sur iTunes, s'il vous plaît. Ça aide les gens à trouver ces informations plus facilement. Sur bonheurpourtous.info, il y a un lien qui vous amène au podcast dans iTunes. À l'épisode prochain, avec la suite de la troisième partie de La superstition la plus dangereuse, excuse pour l'agression.